Bien, nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 mars 2019 et je voudrais revenir sur un point qui me paraît extrêmement important, comme je le fais souvent d'ailleurs, pour comprendre un peu un certain nombre de secrets, si Dieu accepte, si Dieu veut, mais attaché de la Torah, notamment dans cette paracha, qui est une paracha fondamentale que nous avons lue hier, tout simplement. Natav et Avihu, on verra ce qui s'est passé et on essaiera de comprendre, n'est-ce pas? Alors, d'abord, il faut comprendre un point fondamental. Adam Harishon est un être universel qui est composé d'êtres individuels. Lui est un être collectif composé d'êtres individuels. Chaque être individuel est relié à l'absolu, est relié à Akadosh Baruch Hu, et chaque être individuel relié à l'absolu, à Akadosh Baruch Hu, accomplit son essence, sa mission selon son essence, ça veut dire selon son nom. Et à cette époque-là, n'est-ce pas, il n'y avait aucun problème. Adam Harishon, avant la faute, a donné des noms aux animaux. Pourquoi ? Parce que le nom est lié directement à la fonction, à l'être intérieur. Et vous savez que pour qu'il y ait réunion et, si vous voulez, travail, association avec Hachem, il faut qu'il y ait l'âme humaine, notamment le Nefesh à BMI, ce qu'on appelle l'âme animale de l'homme, qui est en rapport et relié directement au Nefesh à Eloki, ça veut dire l'âme divine, et qui, ensemble, intégrés l'une dans l'autre, donne, si vous voulez, la capacité de comprendre son essence. Et donc, pendant le temps de la, entre guillemets, non-faute, Adam Harishon avait un pouvoir formidable. Il voyait ce qu'on appelle le dmout, ça veut dire véritablement le visage d'Hachem. Si on peut se permettre, évidemment, Hachem n'a rien d'humain, bien entendu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, mais il voyait quand même les attributs de Dieu. Et il comprenait véritablement, n'est-ce pas, que Hachem est non seulement Echad, un, mais il est présent dans chaque acte individuel et collectif. C'est lui qui va porter par son message, par sa volonté, par ce qu'on appelle ce « être Hatson », qui va porter tout simplement la bénédiction au monde. Et nous, en tant qu'êtres humains, hommes et femmes, bien entendu, on va réaliser ce que Dieu, disons, ordonne, n'est-ce pas? Et cette réalisation, elle est fondamentale, c'est ça la volonté de Dieu, qu'on réalise la volonté de Dieu dans ce monde. Ce monde, si vous voulez, c'est lié directement à la malchoute. Donc, il faut comprendre une chose qui est très importante. La faute d'Adam Harishon, ça a été de déconnecter donc le monde de la malchoute des autres mondes, c'est-à-dire le monde ici-bas, des autres mondes, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, ce monde-là s'est asséché. Le monde de la malchoute s'est asséché. Dieu s'est caché et il est monté. La Shrina est montée de monde en monde jusqu'à Abraham, jusqu'au septième ciel, si vous voulez, jusqu'au septième monde. Et à partir de ce moment-là, Abraham Avinu est arrivé. Abraham Avinu, c'est pas le premier hébreu. Il faut bien comprendre. Les hébreux étaient déjà présents au temps de Noé. Seulement, Abraham Avinu, c'est le premier hébreu qui a été reconnu, voilà, dans sa mission comme une mission hébraïque, une mission d'hébreu. Abraham à Ivry. Il y avait d'autres hébreux avant, n'est-ce pas, mais qui, eux, étaient surtout, non pas dans l'action, mais dans la connaissance, dans la réflexion. Ils recevaient. Abraham Avinu avait besoin, si vous voulez, de Sarah, la femme, Sarai et Sarah, pour pouvoir accomplir, réaliser. Alors, la faute, ça a été tout simplement de faire déconnecter l'âme, le nefesh à Béhémi du nefesh à Eloki. Et à partir de ce moment-là, il y a, comme j'ai dit l'autre fois, deux projets vont venir. Au lieu d'être deux projets un dans l'autre et unis, ils vont être séparés. Le projet divin et le projet humain. Alors, dans le projet humain, n'est-ce pas, il y a aussi, évidemment, la Shrina, il y a aussi la présence de Dieu, mais elle est cachée, elle est de plus en plus cachée. Le travail des Juifs, entre guillemets des Hébreux, c'est de faire revenir sur ce, dans ce monde-là, n'est-ce pas, arriver, si vous voulez, au niveau du Mishkan, et lorsqu'il y a eu le Mishkan, on est arrivé au retour de la Shrina dans ce monde, sur cette terre, et elle résidait où, évidemment, entre les deux chérubins, et là, il y a un point fondamental est le suivant. La faute du veau d'or est reliée directement à la faute d'Adam Harishon. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Adam Harishon? Vivre sa vie, par son côté féminin, hein, par Chava. Vivre sa vie, vivre le monde des plaisirs, déconnecter les forces du cœur des forces du cerveau. Et cette séparation entre les forces du cœur et les forces du cerveau a entraîné véritablement ce qu'on appelle la faute. Qu'est-ce que c'est que la faute? C'est la non-capacité par une réalisation, réalisation perverse. Pourquoi elle est perverse? Parce que tout simplement, Dieu n'est plus là. Il est déconnecté. Donc à partir de ce moment-là, on est relié à ses propres sens, à son propre plaisir, à ses propres affinités, à ses propres passions, etc., etc. Et donc, il a fallu un peuple qui réunisse en son intériorité et en son extériorité toutes les nistotsot, toutes les âmes qui étaient comprises dans la tête d'Adam Harishon, pour pouvoir, en Eretz Israël, recomposer cette tête de manière à sauver l'humanité. Vous avez compris? De manière à ce que Dieu puisse revenir, ressurgir, être reconnu comme étant évidemment le Meller, le roi du monde. C'est tout le travail. Maintenant, le veau d'or, ça a été en fin de compte de séparer. De séparer quoi? De séparer le peuple de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le fait que le veau d'or a eu lieu, la présence divine dans le, suivez-moi bien, c'est très important, dans le Mishkan, est infiniment plus petite que la présence divine telle qu'elle était au temps d'Adam Harishon, avant la faute. Au temps d'Adam Harishon, avant la faute, Adam Harishon comprenait tout, il voyait tout. Il était complètement partenaire du divin. Encore une fois, Adam Harishon n'était pas juif, n'est-ce pas? Il était universel. Et donc, tout le problème, c'est de reconstituer dans cette petitesse, n'est-ce pas, un keli, un instrument où Dieu, dans sa shrina, peut résider, mais la vision qu'on a, qu'avaient les Bnei Israël, quand est-ce, notamment le premier Nissan, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé au premier Nissan? Il y a eu, évidemment, l'inauguration du tabernacle. D'accord? Je vous rappelle que après la faute du veau d'or, quand est-ce qu'il y a eu la faute du veau d'or? Le 17 Tammuz. Après ça, la faute du veau d'or, il y a eu Akadosh Baruch Hu, Moshe qui est parti demander pardon, prier pour que le pardon arrive. Il arrive 40 jours après, il dit au peuple d'Israël, c'est le premier Eloul, voilà, le pardon a été accepté, mais on n'a pas encore l'étape de la loi. Alors, vous vous rappelez ce que j'avais dit l'autre fois, les Bnei Israël ont commencé à prier, d'accord, la tshuva, la force de la tshuva, le premier Elul, et 40 jours après, à Yom Kippour, Dieu donne les secondes tables de la loi à Moshe, et à partir de ce moment-là, le Mishkan va être construit juste après Yom Kippour, c'est-à-dire aux environs de Sukkot, jusqu'à Hanouka, et il va être inauguré le premier Nissan. Le premier Nissan, c'est le premier du mois de l'année. Si vous voulez, il y a il y a trois mois de l'année qui sont anniversaires. Trois premiers rangs. Le premier Tishri, c'est l'année Rosh Hashanah, n'est-ce pas, de l'universel, Adam Harishon. Le deuxième, c'est la fête d'Ilanot, Tu Bishvat. Et le troisième, c'est le premier Nissan. Ça, c'est l'inauguration du Mishkan. C'est la première année, c'est l'anniversaire de l'année royale. Vous comprenez ? Un roi dans son règne, on décompte les années à partir du premier Nissan. C'est dans le Talmud. Hein. Donc vous allez comprendre une chose très importante. Une fois que sous les ordres de Moshe, de Dieu, bien sûr, de Moshe, Oholiab et Betzalel ont construit le Mishkan, avec l'aide évidemment de tout Am Israël, hommes et femmes, eh bien le Mishkan a été construit, il a été inauguré le premier Nissan, et le 8 Nissan, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé véritablement les 7 jours où les Kohanim vont apprendre leur travail, et le 8e jour, c'était quoi ? C'était le début du travail des Kohanim. Or, pendant le jour de l'inauguration, les deux fils, Aaron HaKohen avait 4 fils, n'est-ce pas ? Les deux fils, 2 sur 4, d'Aaron HaKohen, vont être tués. Alors c'est ça qui est très intéressant pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et là, je vais essayer de vous comprendre un peu, de vous faire comprendre un peu au niveau simple, ce que tout le monde dit, ce qui est tout à fait juste. De toute façon, c'est tout à fait juste, mais ce que tout le monde dit, et qu'on va essayer de rentrer un peu plus dans les profondeurs pour comprendre qu'en fin de compte, c'était non seulement réalisé, et c'était la volonté de Dieu pour que ça se réalise comme ça. Alors, vous savez, je vais vous expliquer, qui était Nadav et Avihu ? C'était 2 Cohen, n'est-ce pas, extrêmement élevés, à tel point qu'ils étaient tellement élevés, maintenant vous allez comprendre, qu'ils étaient à la fin de la paracha Mishpatim, ils étaient avec leur père Aaron HaKohen, et avec les 70 anciens, regardez pourquoi 70 Meir, parce qu'il y a les 70 nations, bravo, parce qu'il y avait les 70 nations, donc là on rentre dans la constitution de la tête d'Adam Harishon, et donc à partir de ce moment-là, Dieu s'est apparu à eux. Et donc, ils ont vu Hachem, si on peut parler comme ça, avec le saphir, etc. Bon, tout ça, c'est connu, n'est-ce pas ? Mais ils ont vu quelque chose de très, très, très puissant. Ils étaient très, 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 très élevés. Nadav et Avihu avaient atteint un niveau que personne, à part Adam Harishon, même peut-être Moshe, n'est pas arrivé. Et donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Lorsqu'il y a eu l'inauguration du Mishkan, ils ont couru prendre l'encensoir. Vous savez que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte avec les encensoirs. Parce que ils faisaient déjà, à ce moment-là, ils les utilisaient pour faire des corbanotes. Les Bnei Israël, n'est-ce pas? Les Hébreux. Ils sont sortis avec l'encensoir, ils ont mis du feu, ils ont mis de l'encens, et ils sont rentrés avec dans le Mishkan. Évidemment, un feu du ciel, disent les Rachamim, c'est écrit dans le Pshat, de la paracha, est tombée, elle les a brûlés complètement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, d'un côté, il y a plein d'explications. Rashi, les Tosafot, tout ça explique exactement ce qui s'est passé au niveau simple. Hein, il y en a qui disent qu'ils étaient plutôt ivrognes, ils avaient trop bu de vin. Et donc, c'est pas possible. Dieu n'accepte pas une offrande venant de gens qui étaient ivrognes. Il y en a qui disent qu'ils n'étaient pas mariés. Tout ça, c'est vrai, hein ? Ils n'étaient pas mariés. Donc, à partir de ce moment-là, si on n'est pas marié, on ne peut pas constituer la marichonne. Donc, à partir de ce moment-là, on peut pas travailler avec HM. Il y en a qui ont dit qu'ils se sont sentis, si vous voulez, un peu irrespectueux devant Moshe, devant Moïse, parce qu'ils ont voulu transcender la loi en allant vite, vite, vite apporter, alors que Moshe n'a pas demandé, Dieu n'a pas demandé de faire ça. Donc ils ont été tués. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors au niveau du pshat, on a dit que tout ce que disent les rabbins de toutes les époques est absolument juste, mais on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Il s'est passé la chose suivante, c'est que Nadav et Avihu étaient présents avec Moshe, avec Aaron, avec les 70 personnes âgées, les 70, n'est-ce pas ? Anciens, lorsque Dieu s'est révélé à eux, dans la paracha Mishpatim. Donc, ils pensaient tout simplement que, comme ils l'ont vu, alors le peuple qui est arrivé à un certain niveau, degré de connaissance et de sainteté, ils vont voir ce que ont vu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu ? Ils ont voulu faire participer le peuple à cette vision grandiose qui est la vision de la fin des temps, qui est la vision du Mashiach ben David. Eux, ils ont vu ce que le Machiav Ben David et la génération du Machiav Ben David, chacun à son niveau, bien entendu, chacun à son niveau, va voir. Donc ils ont voulu, si vous voulez, accélérer le temps. Mais ce n'était pas le temps de faire ça. Alors Dieu les a rappelés, n'est-ce pas? Parce qu'eux ont vu ce que les Bnei Israël n'ont pas vu. Dans la paracha, à la fin de la paracha Mishpatim, avec les 70, comme par hasard les 70 nations, on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque la tête d'Amarichon s'est constituée, il a eu cette formation formidable qui est le Mishkan, où Dieu s'est révélé, certes, mais en petit, par rapport à sa révélation du temps de Mishpatim, après Matan Torah, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, un point fondamental est arrivé, c'est que les deux âmes, Nadav et Avihu, sont rentrées dans ce qu'on appelle l'âme de Pinchas. Vous savez qui c'est Pinchas? Pinchas, c'est d'abord, au début, il n'était pas Cohen. Il est, évidemment, c'est le fils d'Éliazar. Il a été nommé Cohen par Dieu après avoir, tué Zimri Ben Salou, d'accord, avec sa compagne, dans la paracha Pinchas. Et véritablement, pourquoi ils sont rentrés? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à ce moment-là, il y a 40 ans, hein. Il y a 40 ans entre ce qui s'est passé dans la paracha Tzav et ce qui s'est passé à la paracha Pinchas, il y a 40 ans du désert. Juste à la paracha Pinchas, les Bnei Israël étaient sur le point de rentrer en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens allaient avec des Moabites, des Goyotes, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, Dieu a dit, je vais tout effacer, c'était très grave. C'était très grave. D'accord? Zimri Ben Salou, n'est-ce pas? Il est parti avec Cosby, qui était une princesse de Moab, et devant tout le peuple, devant la tente d'assignation, et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pinchas est devenu complètement, j'allais dire, en colère, et il a pris une lance, et il les a enfourchés, je ne sais pas si ça se dit, et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, la parole de Dieu a été bénie, et il a été, évidemment, il est devenu Cohen, et il a porté le shalom. Alors maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi Nadav et Avihu sont rentrés dans les Neshamas de Pinchas? Parce que Pinchas, qu'est-ce qui s'est passé? Nadav et Avihu étaient, en fin de compte, le côté individuel, ça c'est très important, le côté individuel des Adam Harishon. Le côté individuel des Adam Harishon. Donc ils ont voulu eux-mêmes représenter la vision que chacun avait de Dieu. Tandis que Pinchas, lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une vision par rapport à la collectivité. C'est le peuple qui a fait voter ce qui se faisait avec les Moabites. C'est le peuple d'une manière globale qui a voté. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? L'individu qui sont représentés par Nadav et Avihu, qui avait atteint un niveau relativement bas à cause du veau d'or, et la collectivité qui avait atteint un niveau relativement bas à cause du problème d'aller avec des femmes, etc., qui n'étaient pas des juifs et en dehors du mariage. Bon, à partir de ce moment-là, il s'est passé tout simplement la fin carrément du projet de Dieu. Nadav et Avihu ont voulu, au contraire, annoncer l'arrivée d'Adam Harishon, donc du Machiav Ben David, avant la faute, et Pinchas, à Cohen, a voulu arrêter la catastrophe, parce que, tout simplement, c'était la destruction de cette tête d'Adam Harishon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas, n'est-ce pas, grâce à Nadav et Avihu, il a sauvé la collectivité. Et donc, si vous voulez, regardez, comprenez bien, dans la tête d'Adam Harishon, vous avez le particulier, et la globalité. Le particulier était représenté par Nadav et Avihu, et ceux-là, ils ont été, si vous voulez, introduits dans la collectivité d'Israël par l'intermédiaire de l'âme de Pinchas, et à la fin des temps de la période du désert, juste avant de rentrer en Eretz Israël, cette collectivité était en danger de mort à cause des problèmes d'abus sexuels. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé que la collectivité va faire tchouva grâce au fait que Nadav et Avihu, les individus, vont eux-mêmes permettre cette tchouva en pénétrant la tête d'Adam Harishon. Vous avez compris? Alors, ce qui est très important pour finir de comprendre, c'est que, en fait, c'est vrai que Nadav et Avéhou ont fauté. C'est vrai, disent les rabbins, qu'ils ont été au-delà, ils ont créé ce qu'on appelle un feu étranger, qui n'était pas ordonné par Hachem, qui n'était pas ordonné par Moshe sous les ordres d'Hachem, mais il n'empêche que les kabbalistes disent qu'ils ont fait un travail fondamental parce qu'ils ont vu Hachem dans la paracha Mishpatim avec les 70 anciens et avec Aaron HaKohen, et ils ont voulu le reproduire à ce moment-là de manière à ce que le peuple d'Israël puisse revoir pendant l'inauguration du Mishkan le premier Nissan à Kadosh Baruch Hu tel que eux l'avaient vu dans la paracha Mishpatim. Ça s'est pas passé parce que Dieu ne voulait pas. Il a fallu arriver à 40 ans plus tard à Pinchas pour enfin faire le lien entre Pinchas à Cohen et Nadav Véaviou pour pouvoir reconstituer. S'il n'y avait pas eu cette action de Nadav Véaviou, il ne peut pas y avoir de reconstitution à notre époque, à la fin des temps, de l'histoire, autour du Mashiach ben David, de la tête d'Adam Harishon. C'est pas possible. Il fallait que l'individu et le collectif se rassemblent. Merci beaucoup.